Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer la micro-géopolitique au sens des territoires entre l'État, l'usager et la personne dans le champ de la santé. Vous noterez que dans le titre de mon cours figure un grand absent, le médecin, ou plus largement le soignant. Ce n'est naturellement pas un oubli. La revue Sociologie et Santé a consacré en mars 2011 un numéro spécial sur le thème « Les professionnels de santé entre institutions et usagers ». Le sujet du cours d'aujourd'hui met plus volontiers l'accent sur les relations entre le citoyen, l'État et l'usager des services de santé, en vue d'explorer les contours de ce que peut être une participation et une démocratie sanitaire. La réforme des systèmes de santé, telle qu'imaginée par les institutions internationales et les ministres de la Santé des États d'Afrique réunis à Bamako en 1987, a pour objectif de mobiliser de l'argent. L'idée de l'OMS, de l'UNICEF et de la Banque mondiale à l'époque est de pallier l'insuffisance des financements des États endettés à satisfaire les besoins de santé d'une population en pleine croissance dans un contexte de crise économique et des effets des mesures macroéconomiques d'ajustement structurel imposées par les institutions de Bretton Woods. L'État, censé être le garant de l'équité, n'est plus en mesure d'assurer l'accès aux soins. Les institutions internationales pensent que la cumulation des financements de l'État avec ceux de la population et de quelques aides internationales permettra d'améliorer la couverture et la qualité de l'offre de soins. En s'assurant de la régularité de la disponibilité des médicaments, les objectifs sont de rétablir la confiance des populations dans leur système de santé. Tenue pour responsable des maux dont souffre la population, la légitimité, la crédibilité et l'autorité même de l'État sont d'autant mises en cause que les institutions d'aide financent des initiatives qui contournent l'État, contribuant ainsi pour une durée indéfinie à briser la confiance des citoyens en l'État-nation à l'image forte depuis les indépendances. L'aide bilatérale américaine, notamment USAID dans les années 90, préconise de financer en priorité les organisations non gouvernementales et la société civile. L'usager des services de soins est sollicité donc pour acheter des consultations et des médicaments en échange d'un pouvoir de contrôle sur la gestion des approvisionnements en médicaments et des recettes générées par la vente. En dehors de quelques initiatives localisées, c'est la première fois que le système public de santé en Afrique sollicite la société civile, les associations de quartiers, les associations d'usagers pour participer à la gestion de l'offre de soins. La participation des usagers est ici de nature gestionnaire, concentrée pour l'essentiel sur une activité curatrice du système de soins. Les activités préventives, comme la vaccination, les consultations prénatales, sont proposées gratuitement. Largement soutenue par l'administration nationale et les institutions d'aide dans de nombreux pays, les résultats de l'initiative de Bamako en termes de couverture sanitaire se sont avérés très variables selon la capacité financière des populations servies. En passant d'Abidjan à Tuléar, à Madagascar, entre 1992 et 2001, je suis témoin des succès spectaculaires des centres de santé communautaires en milieu urbain à Abidjan, dont la pérennité est remarquable 20 ans après. Ils existent toujours, ils fonctionnent toujours, avec quelques difficultés, mais tout de même, ils sont les mêmes, toujours là, et d'autres ont été créés. Pendant que la même réforme exclut des formations sanitaires de la région de Tuléar à Madagascar, vous voyez au sud-ouest donc de l'île, la majeure partie de la population, en particulier les femmes enceintes et qui accouchent. Madagascar est un des 6 pays du continent pourtant ayant atteint l'objectif des chefs d'État réunis à Abuja en 2001, de consacrer 15% des budgets publics à la santé. C'est aussi un des 5 pays où l'OMD5 de réduction de la mortalité maternelle n'a montré aucun progrès en 10 ans. Au-delà de ces deux exemples contrastés, l'un dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, l'autre en milieu rural pauvre, malgache, la tentative de tarification des soins et de recouvrement des coûts atteint globalement des limites que la communauté internationale mettra une quinzaine d'années à objectiver. Ce n'est qu'en 2002 que le premier rapport d'évaluation de l'initiative de Bamako est publié. L'OMS alerte sur le fait que 100 millions de personnes basculent dans la pauvreté chaque année du fait des user fees, du fait du paiement des soins. Lorsqu'ils ne meurent pas, les malades et leurs familles ressortent appauvris par le détournement de la quasi-totalité de leurs revenus et les dettes qu'ils ont dû contracter pour se soigner. Du côté du soignant, la position est simple. C'est la précarité qui guide nos décisions plutôt que l'état médical du patient, regrette professeur Aka Kaku au CHU de Trècheville, encore tout récemment, au mois de janvier. Les malades se plaignent discrètement de leur exclusion. La pénétration brutale et massive de nouvelles maladies, comme le sida dans les années 80, où l'on observe 70 à 75% de la mortalité mondiale liée au VIH, ne semble pas alors motivée de réactions populaires ou politiques. Nous observons une certaine tolérance de la société aux maladies qui tuent le plus, de même qu'à la mort de femmes qui accouchent, vis-à-vis desquelles l'initiative de Bamako, porteuse d'un immense espoir, n'a pourtant pas tenu ses promesses d'offrir des soins de qualité accessibles à tous. Les dispositifs de l'État manifestent une certaine tolérance à l'égard de pratiques illégales des soignants, dites parallèles, de prélever de l'argent aux malades, indépendamment des tarifications en vigueur. L'Organisation mondiale de la santé ou les ordres professionnels nationaux n'ont pas rappelé les professionnels de santé à respecter la déontologie médicale, que ce soit ici ou ailleurs. Les institutions internationales d'aide au développement se taisent encore sur ces pratiques de racket, pourtant jugées en aparté inacceptables, choquantes et aggravant encore l'exclusion de patients démunis. Plus de 25 ans après, l'initiative de Bamako demeure en vigueur dans de nombreux pays, même si dans la seconde partie des années 2000, les chefs d'État et de quelques pays soucieux d'accélérer la réalisation des OMD de la santé, avant 2015, surtout relatifs à la santé maternelle et infantile, ont instauré des politiques de gratuité, c'est-à-dire des mécanismes d'exemption de la tarification des soins en faveur des groupes les plus vulnérables, tels les femmes enceintes et les enfants. Pour l'analyse de ces politiques de tarification, de financement puis de gratuité, je vous renvoie aux travaux de professeur Anne Mills, que nous avons l'honneur de recevoir dans un instant, de Robert Yates, de Jean-Pierre-Olivier de Sardan et Valérie Reed en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'aux études de Bruno Messen et Wim Van Damme de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, de Bruno Dujardin à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, sur les politiques de santé et les attentes des patients, c'est le titre de son ouvrage, sans oublier de mentionner une étude réalisée par 4 de mes étudiants à Sciences Po, en collaboration avec Médecins du Monde, sur les déterminants politiques de la gratuité en Zambie, en Ouganda, en Haïti, à Madagascar et au Niger, que résume Estelle Chollet dans l'ouvrage que j'ai dirigé sur les enjeux de santé au Sud. Fait remarquable de cette étude, de la situation, la décision de gratuité est prise dans l'unanimité des cas étudiés par le président du pays, souvent dans un contexte préparatoire ou au décours de l'élection présidentielle. L'exemption de paiement des soins est une décision éminemment politique où le ministère de la Santé n'est pas consulté, ce qui pose des problèmes majeurs mettant en péril parfois la viabilité des centres de santé, tant la gratuité des soins doit bien être financée par ailleurs. Je souhaite attirer votre attention également sur les programmes très pertinents de l'association Santé Sud, qui aide à l'installation de jeunes médecins en milieu rural en Afrique et à Madagascar. Toutes ces alternatives de l'offre publique de soins sont très intéressantes et font partie des succès de l'aide en appui au système de santé. Pour ceux qui sont intéressés, l'association Santé Sud a laissé des documents à votre disposition. L'accès ou l'équité de l'accès aux soins est donc la dimension de la réforme de Bamako qui est la plus souvent analysée dans le cadre des programmes de recherche. Aujourd'hui, nous souhaitons apporter un éclairage différent sur le sujet de la participation de l'individu ou du peuple aux questions de santé, d'autant que nombre de problématiques actuellement en question dans les pays pauvres concernent de plus en plus nos autorités sanitaires et le public du Nord, étant donné le niveau d'endettement et de réduction de la capacité financière de nos États et de nos dispositifs d'assurance maladie et de protection sociale, à répondre à une demande accrue de soins liée au vieillissement de la population, à l'augmentation de prévalence des maladies chroniques, très consommatrices de temps et de ressources, que sont les cancers, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les problèmes de santé mentale, de handicap post-accidentel, etc. Surtout, notre approche souhaite dépasser le cadre restrictif du paradigme curatif de la stratégie de Bamako ou même de la couverture sanitaire universelle pour nous intéresser à la personne saine, aux citoyens ou à l'ensemble de la population, comme acteurs potentiels de santé et pas seulement aux usagers, justement, souvent malades par définition et somme toute minoritaires en Afrique. De manière générale, les taux d'utilisation des services restent très bas, ne dépassent guère 0,2 ou 0,3 consultations par an par habitant, même pas une consultation par an et par habitant. La demande de soins est affectée par leur prix, mais pas seulement. La confiance, la qualité des soins ou simplement l'accueil sont au cœur de la motivation à demander des soins ou non. Tout ceci a été exploré par notre collègue Thierry Berche au Mali, dont je donne la référence de l'ouvrage sur ses travaux très intéressants. Intéressons-nous plutôt à ce qui nous paraît constituer les vrais sujets auxquels nos sociétés ici et là-bas sont confrontées, dont découlent naturellement les interrogations à propos de l'équité. Le but de nos politiques de santé est de réduire la dépense et le coût. Pouvons-nous répondre à cette préoccupation sans réfléchir avant tout à nos priorités sur la prévention, les maladies, les souffrances et la mort? Et à notre participation à faire évoluer les politiques de santé plutôt qu'à nos seules contributions à les financer. C'est sur cette participation-là que je vous propose de nous arrêter aujourd'hui. Je partage avec Annick Madec et Numa Murar l'idée selon laquelle la participation volontaire à la chose publique, le civisme si l'on préfère, est constitutive de la citoyenneté. L'on est citoyen si l'on participe à la chose publique, disent-ils. Nous aborderons ce sujet dans trois dimensions. Dans un premier temps, nous essaierons de montrer qu'au-delà du patient ou de l'usager d'un côté et du groupe exposé à un risque collectif de l'autre, dont la condition relève respectivement de la médecine dans le premier cas, patient et usager, et de la santé publique dans le second pour le groupe, se dégage un sujet relevant peu des politiques publiques et peu sensible aux politiques publiques de santé, que je nomme la personne saine, à propos de laquelle nous envisageons les conditions d'un espace politique de participation en tant que citoyen, plutôt qu'usager ou malade. L'intitulé, donc, est la personne dans l'espace très privé de la santé. Dans un second temps, il est intéressant de comprendre que dans des pays qui ne se distinguent pas par l'excellence de l'état de droit, il est difficile d'attendre des personnes qu'elles soient des acteurs de la politique de santé, même s'il est intéressant de s'apercevoir que la démocratie sanitaire peut créer un précédent et une dynamique de participation à la vie citoyenne sur une toile de fond peu démocratique, comme ce fut le cas à Madagascar dans les années 90, de la seconde phase du régime de Didier Ratsirak, du président Didier Ratsirak, ce que je décris dans une publication que j'ai appelée « Questions autour de la démocratie sanitaire » que je vous proposerai en ligne sur le site de la chaire. L'intitulé de notre volet, de ce volet-là, c'est « Les effets de la démocratie sur la participation dans le champ de la protection de la santé ». Enfin, nous verrons que le fait que les conditions de la démocratie sont réunies, comme en France ou dans d'autres pays européens, ne suffit pas à observer une participation effective du citoyen aux questions de santé. Celui-ci ne s'en empare que très rarement. Il convient de s'interroger sur ce qui pourrait inciter et faciliter cette participation. Le troisième intitulé de mon exposé est donc « Les conditions de la démocratie ne sont pas suffisantes à la participation du citoyen ». La personne dans l'espace très privé de la santé. Même dans les pays dits démocratiques, plutôt peu de personnes s'engagent en faveur de la santé. Or, il me semble qu'à partir du moment où la personne, plutôt que l'usager ou le malade, n'est pas impliquée dans un débat public sur la santé, il ne peut y avoir pleinement d'effet de la démocratie sur le changement des politiques et l'état de santé des populations. Partout dans le monde, les tabous et le silence y sont pour quelque chose. La maladie n'est pas nommée, c'est le symptôme qui est nommé. Le sida en est un bel exemple en Afrique, encore aujourd'hui. Le cancer, l'autre exemple, au sud et dans nos pays. Ainsi, au-delà des relations inégales de pouvoir, Une évidente complicité unit le malade et son soignant dans une sorte d'omerta thérapeutique. Même si les relations entre le patient et son médecin se sont transformées au cours des 20 dernières années, dans nos régions, nous l'observons à propos du cancer, et sans doute au sud du fait des transformations sociologiques qu'a suscité l'implication des personnes vivant avec le virus du sida, par exemple, le silence et le pouvoir dominent encore souvent la relation du médecin avec son patient. Dans la sphère privée, la maladie est le plus souvent tue. Si la maladie était nommée dans la sphère privée, peut-être serait-il plus facile d'en débattre dans la sphère publique. Ici et au Sud, la presse relaie-t-elle les attentes des populations ? Selon notre expérience en Afrique, la presse discute davantage de l'offre des services de soins que des besoins des populations. L'État, de son côté, ne choisit pas ses stratégies sanitaires selon les problèmes de santé que nous, professionnels de santé publique, avions appris à hiérarchiser selon des critères épidémiologiques ou socio-économiques. Non pas qu'ils ne soient pas mesurés avec acuité, en tout cas en Europe, les données sanitaires sont en général disponibles. Les critères épidémiologiques ne fondent pas les priorités de santé, pas non plus les financements. La réaction politique en santé est la plupart du temps non fondée, irrationnelle. Ceci est vrai à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Comme l'illustre très clairement cette diapositive empruntée à mes collègues à Bruxelles, où nous observons deux pyramides exactement inversées des priorités de santé et des financements européens. De même, à l'échelle mondiale, nous l'avons décrit la semaine dernière en cours, les financements publics et privés mondiaux privilégient quelques maladies infectieuses, le sida, la tuberculose, le paludisme, aux dépens d'autres maladies ou des maladies chroniques. Donc 80% de la mortalité, pourtant, se produit dans les pays en développement. Que le politique soit un sujet irrationnel n'est pas très surprenant. Du côté de la santé publique, de l'épidémiologie ou de la science, il serait intéressant d'explorer pourquoi certains phénomènes ne sont même pas étudiés, tels les effets judiciaires, sociaux, économiques et mentaux sur plusieurs générations de l'alcoolisme dans une famille. Nous venons d'apprendre d'une étude de l'Institut Gustave Roussy, publiée par European Journal of Public Health, que l'alcool tue 49 000 personnes par an en France. Qu'en est-il des répercussions de ce phénomène sur l'entourage ? Le taux de décès prématuré évitable avant 60 ans reste en France un des plus élevés des pays développés, nous dit la présidente de la Conférence nationale de santé en France, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la Santé, qui réunit 8 collèges, dont une des missions est précisément de relayer les demandes et les besoins des populations, le savons-nous. Les autorités de santé semblent peu intéressées de connaître les attentes des citoyens. En dehors de la Conférence nationale de santé, y a-t-il des espaces où la population exprime des demandes et des analyses à l'attention de l'État ? Que ce soit en faveur de la population en général ou de certains groupes, les jeunes, les personnes âgées, la petite enfance. De ce point de vue, l'initiative de l'Institut Montaigne de réunir d'octobre à décembre dernier, en 2012, une conférence des citoyens en France, je cite, pour discuter, je cite, de quel système de santé voulons-nous et comment nous devons l'utiliser et le financer pour qu'il soit viable, mérite d'être mentionné, de même que l'avis émis à l'issue de cette concertation. Dans le paysage de l'initiative de Bamako, mais cela est vrai dans nos pays, la prévention de la maladie et l'individu passent au second plan des relations et d'un système de santé centré sur le caractère marchand qu'entretient une approche médicale où les prestations sont l'objet d'une négociation sur les prix plutôt que sur les coûts sous l'influence de puissants lobbies. Les intérêts des professionnels, corps médical, industrie pharmaceutique semblent privilégiés. Les symptômes sont l'objet de transactions. L'usager devient un client, conception anonyme marchande non compassionnelle du malade. L'usager, le client et le soignant, les trois figures du trépied de soins, ne se rencontrent pas autour d'une relation thérapeutique, mais d'un marché. Le client est d'ailleurs le terme français utilisé par les médecins généralistes pour parler des malades qui leur sont fidèles, la clientèle qu'ils sont prêts à revendre et à marchander le moment venu. Or, ce terme a une très forte connotation du secteur privé à but lucratif, utilisé par les entreprises industrielles et commerciales. La pratique libérale de la médecine en France s'inscrit dans le cadre d'une activité à but lucratif, fut-elle subventionnée par différents systèmes de couverture du risque maladie et de protection sociale. Du côté des familles, avions-nous relevé à Abidjan, c'est la nécessité de trouver de l'argent qui fonde la solidarité plus que l'accompagnement et personne ne s'en plaint. Les systèmes de mutuelles ne s'intéressent pas aux plus démunis, exclus par leur incapacité à payer les cotisations et forfaits requis pour faire partie du groupe. Selon Valérie Ride et ses collègues, la confiance et les interactions entre les acteurs de mutuelles de santé au Bénin sont davantage guidées par le commun intérêt de réduire le risque financier en même temps que de s'assurer de sa saine gestion, plutôt que de générer des nouvelles formes de solidarité. L'usager semble n'intéresser l'État qu'au travers du rôle qu'il pourrait jouer dans le domaine du financement de services de santé. Le malade est invité à participer pour payer ce que l'État n'est pas en mesure de lui offrir en dépit de sa mission de protéger la santé du citoyen. Nous voyons bien que dans cette configuration de la santé, la personne qui n'est pas encore malade et son entourage importent peu, tandis que la définition de l'OMS énonce pourtant la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. D'où cela vient-il que la personne importe si peu ? Une hypothèse tient à la genèse de la construction des mécanismes de protection sociale en France et en Europe, où le modèle repose sur l'objectif de protéger la productivité du travailleur, de l'employé. C'est la dimension économique du sanitaire et de la protection sociale qui prévaut. La conception de la santé publique s'est forgée sur cette idée et cette préoccupation économique à partir de laquelle le système de soins a trouvé des financements. C'est vrai en France, cela se confirme lors de la construction des communautés économiques européennes, puis de l'Union européenne. Les objectifs de promotion du développement économique et social ne peuvent être atteints ni être durables si l'état de santé de la population n'est pas satisfaisant. Notons qu'à l'intérieur de l'Europe en construction dans les années 50, les traités fondateurs des accords entre les États membres de la communauté européenne sont à vocation essentiellement commerciale. Il en découle que les préoccupations sanitaires prévues initialement dans le cadre de ces traités visent en priorité, voire exclusivement, à l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène, des conditions de travail, de la santé des travailleurs, dans l'idée d'améliorer la productivité économique de ceux-ci. Le Conseil européen de Strasbourg, en 1989, définit les grandes lignes de la Charte européenne. C'est la résolution du Conseil européen du 11 novembre 1991, très récemment tout de même, qui, pour la première fois, évoque vraiment la potentialité de la communauté européenne de formuler une politique de santé commune, une politique d'ensemble qui dépasse en fait le cadre des travailleurs auxquels s'adressaient jusque-là les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé. Les compétences de la Commission européenne sont limitées par le principe de subsidiarité, selon lequel les attributions communautaires sur certaines questions qui ne relèvent pas initialement de la communauté européenne ne sont abordées et considérées par elle que si elles ne peuvent pas être traitées avec une meilleure compétence par les États eux-mêmes. Ceci exprime le souci de la communauté de représenter un plus et non un substitut aux États membres. Le principe s'exprime à travers le traité de Maastricht de février 1992, en son article 129, qui définit concrètement les axes de compétences en matière de santé. La prévention des maladies, des grands fléaux de la toxicomanie, l'information et l'éducation en matière de santé. Point. Pour tout ce qu'elle entreprend, la Commission doit démontrer la valeur ajoutée de sa politique. Il n'est pas question de mesures contraignant les États. Cette dimension va s'avérer être un des piliers de la construction de l'Europe économique et sociale. À l'échelle mondiale, l'objectif de promouvoir la couverture sanitaire universelle s'inspire de ces modèles français et européens. Considérons la santé comme moteur du développement, dont le corollaire est de préserver la productivité du travailleur plutôt que le bien-être de toute personne. La préoccupation qui domine est de savoir comment on va payer les soins à de plus en plus de malades, plutôt que de se demander comment une société peut produire moins de malades. C'est la conception même de la santé publique qui est en cause. Nous sommes formés à catégoriser la santé publique comme une science s'intéressant à la population et la médecine comme une science s'intéressant à l'individu. Or, cette conception binaire ne nous semble pas refléter tout un chacun, mais plutôt respectivement une partie de la population. D'un côté, les malades, qui relèvent de la médecine, et de l'autre, une frange de la population qui serait composée du dénominateur commun de personnes exposées à des fléaux et risques collectifs dont la protection relèverait de la santé publique au sens de la responsabilité des États. Contrairement aux idées reçues ou même aux concepts tels que la santé publique nous les laisse entendre, il ne s'agit pas de la population dans son entièreté. Ne relève de la responsabilité de l'État en réalité qu'une petite partie de la population exposée à des risques communs, des risques environnementaux par exemple, ou du milieu du travail. Indépendamment des dispositions constitutionnelles, entre les deux, c'est-à-dire entre les usagers d'un côté et de l'autre cette partie de la population dont la protection de la santé relève clairement de la responsabilité de l'État, il persiste un vaste terrain vague où ce que j'appellerais la personne elle-même, l'individu normal, si l'on veut, normal jusque-là, n'existe pas dans l'orbite de l'État et même de la santé publique, ou si peu. La santé publique a-t-elle vocation à pénétrer le champ de la personne saine ? L'État est tout aussi insouciant que le peuple, qui semble de son côté vouloir rester inconscient et libre de toute autorité, même des interventions dites de promotion de la santé. Cette personne ne souhaite pas qu'on se soucie de sa santé. Si l'on en croit les propos provocateurs et pertinents tout à la fois de Philippe Meuret, je cite, faisant référence à une figure de santé publique, à un grand homme de santé publique en France, il nous dit « Cet homme est dangereux, ma santé l'intéresse. Je savais que rien n'empêcherait plus ce chef de patrouille prophylactique de fourrer le nez dans mes vices privés au nom du bien public. Il est toujours intéressant de regarder naître une nouvelle utopie, de la voir croître et embellir en tirant à boulets rouges contre des ennemis qui, pour être plus abstraits que ceux d'autrefois, n'en sont pas moins bien désignés. Alcoolisme, tabagisme, graisse, voiture capable de trop grande vitesse, etc. Cet homme est dangereux, ma survie l'intéresse. Mon existence, il l'appelle vie comportementale. Oui, cet homme est redoutable. Il ne veut rien interdire, mais tout dans son style d'améliorateur chafouin de la condition humaine demande l'interdiction de tout au nom de l'influence de tout sur tout le monde, notamment sur les jeunes. » Fin de citation. Ainsi, en pratique, je dis bien en pratique, l'individu normal sort du champ de la collectivité, du groupe de malades, autant que du groupe des populations que l'État a pour mission de protéger vis-à-vis d'un risque collectif. La personne sort de fait du rayon d'action de la médecine et de la santé publique stricto sensu. C'est sans doute ici que va s'exprimer de manière la plus aiguë ce que Claude Reynaud décrit comme le paradoxe entre l'exigence de liberté propre à chaque homme et la nécessité d'une défense du bien commun qui fonde l'intervention contraignante de l'État, qui en fin de compte est le garant du bien et de la liberté individuelle. Claude Reynaud a dirigé le numéro de la revue Sociologie et Santé 13, ici présent, Santé publique entre l'État et la société civile, réalisé en 1995. Je n'ai rien lu depuis d'aussi passionnant sur des sujets qui restent complètement d'actualité, presque 20 ans après. Je pense très sincèrement que l'individu en bonne santé est libre et seul, et cela même lorsqu'il est exposé à divers risques pour sa santé. Les drogues en font une belle illustration, en particulier celles dont l'usage est légal. Ce ne sont pas les interventions ponctuelles d'information, d'éducation, de communication, où qu'elles soient réalisées, à l'école, à l'université, dans les médias, qui semble changer cet état de choses. La perception du risque est éminemment variable d'un individu à l'autre. Il est démontré d'ailleurs que la perception du risque est atténuée par la prise d'alcool. Le risque est une hypothèse, une incertitude, va de pair avec la probabilité d'un événement d'autant plus différé qu'il est de nature sociale, perdre son emploi par exemple, plutôt que médical, être atteint d'une cirrhose du foie. Pour tous ces sujets, je vous renvoie aux travaux passionnants en France de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, INPES, et à toutes les études socio-anthropologiques à l'échelle mondiale sur le Behavior Change and Communication, la communication pour le changement de comportement. Nous savons bien qu'il ne suffit pas d'avoir les informations, de connaître et de savoir, d'être prévenu des risques ou des dangers pour agir sur nos comportements, pour changer nos attitudes et nous protéger, réduire notre exposition au risque de fumer, de boire, d'avoir des relations sexuelles ou des conduites à risque. Nos comportements sont sous l'effet de forces autrement plus puissantes que les savoirs. Nous assistons à un arbitrage ou non de l'individu lui-même entre ses savoirs et sa prise de risque. D'ailleurs, n'entendez-vous pas la connotation morale, voire la charge péjorative de l'expression « changer de comportement » ? À peine prononcée, elle suscite le recul. Est-il possible de parler de comportement en parvenant à se débarrasser de la charge morale qui accompagne ce terme, qui porte aussi une dimension infantilisante qui peut susciter le rejet ? Par ailleurs, à quoi sert-il de savoir ? À rien, puisque je suis inconscient et insouciant et pleinement dans la vie, en particulier lorsque je suis jeune. La communication de prévention qui fait peur a peu d'effet. Elle est même souvent contre-productive en termes de prévention. À l'agression que constitue l'information sur un danger, l'individu souverain oppose le déni, son arme imparable. À cet égard, il me semble que lorsqu'on réfléchit à communiquer en prévention, il est préférable d'éviter de produire des messages contre un risque ou une maladie et de privilégier des messages pour la vie, l'amour. Pourquoi est-ce si difficile à nos politiques sanitaires de parler de vie, de préserver son existence, sa liberté, de parler de sexe et d'amour ? Une fois le champ de la personne ouvert, indépendant de la médecine et de la vision de la santé publique restreinte à ce dénominateur commun collectif, une série d'observations nous submerge sur la préservation de sa santé et sur la participation de cette personne saine à la santé dans la société. Sur la préservation de sa santé, il ne va dépendre que de cette personne de préserver sa santé. Qu'elle l'attende ou non, il y a peu de chances que les services de l'État ou même de la société se saisissent de sa situation et des risques qui pourraient le mettre en danger. L'individu normal est rarement un sujet des politiques publiques. Ainsi devrions-nous sortir du champ d'études et de recherche de la médecine et de la santé publique la science du comportement pour analyser les dimensions de la personne dans son entièreté et tenter de comprendre les déterminants personnels ou sociaux à l'origine de l'exposition à divers risques pour sa santé, ce qui est très complexe. Il y a peu de chances que l'État, qui incarne l'autorité, exerce une quelconque influence sur une personne souveraine. Il nous semble intéressant de mettre en perspective ces analyses avec l'exploration de l'efficacité de la prévention des toxicomanies et des maladies chroniques, qui sont des pathologies qui tuent le plus dans nos pays, mais aussi dans les pays émergents et en développement, dont les facteurs de risque relèvent de comportements déterminés par des moteurs puissants, autant personnels que collectifs. Obésité, tabac, alcool, sédentarité. Relève-t-il du seul ministère de la Santé de se préoccuper des consommations nocives pour la santé ? Est-ce qu'il appartient à la tutelle de l'État et à la puissance publique au travers de la santé publique d'étudier le rapport d'une personne à soi et à sa santé ou à la mort ? Ne s'agit-il pas davantage de questions existentielles, de questions interpellant le sens de l'existence, relevant de la philosophie de l'homme face à son destin de mortel et aux multitudes de réactions individuelles, conscientes et inconscientes, déterminées ou souveraines, qui sont liées à cette conscience ? Il me semble que les questions existentielles auxquelles cet être est confronté sortent par nature du champ des autres et du collectif. Il s'agit bien de l'autonomie et de l'impossibilité donc de recourir aux autres. La souveraineté de la personne est hors d'atteinte des autres, hors d'atteinte des politiques publiques. N'est-ce pas à cet endroit où s'est isolée la personne dépendante à l'alcool, au tabac, à toutes sortes de conduites nocives pour sa santé ? Cela nous aide-t-il d'invoquer la responsabilisation, dont le terme a lui aussi une forte connotation morale ? Finalement, pour tout un chacun, est-ce un objectif de préserver sa santé ? Sur la participation de la personne à la santé dans la société, il va être très difficile à cet individu absent des champs dominant de représentation de la santé que sont la médecine ou la santé publique, de devenir un acteur dans un système qu'il ignore et duquel, réciproquement, cet individu ne demande qu'à être oublié d'espace où il est question de maladie, de souffrance et de mort. Même dans une société qui réunit a priori l'ensemble des critères et les modes de fonctionnement de la démocratie, au sens où l'entend Amartya Sen, la participation, l'implication, l'engagement de cette personne saine à des discussions politiques de santé ne coule pas de source. Ainsi, la santé ne se réduit pas à un état ni à un sujet qui pourrait être débattu allègrement entre acteurs, publics ou privés, d'une société démocratique où les libertés publiques sont vivantes et réelles. Nous devons libérer notre conception culturelle de la santé des menottes de la médecine et de la santé publique et même de notre compréhension de la santé comme relevant d'un droit, du droit à la santé, pour laisser aller la notion de santé vers de nouveaux rivages, autoriser une amplitude et une expansion du concept de santé bien au-delà de son étymologie hygiéniste ou intimement liée à l'offre de soins. La santé relève d'une liberté fondamentale, d'une liberté publique peut-être. Au même titre que penser, écrire, s'exprimer, se réunir, nous pourrions concevoir la liberté de santé, la liberté d'être à soi, un lieu d'expression de sa pleine potentialité à vivre, une aspiration à être à la vie. La valorisation de la santé pourrait être la plus haute expression de la démocratie et de la délibération publique. Nous n'y sommes pas encore. Dans le champ où je vous propose de venir, il ne s'agit pas de soins, mais de non-maladie et de préservation de son existence. Je crois possible de tendre vers une nouvelle conception de la santé, débarrassée de l'héritage réducteur où elle se trouve cantonnée autour du travail, des systèmes, des financements. La santé des personnes saines, potentiellement à risque, relève en réalité d'un espace intime et personnel de souveraineté et de conscience de soi plutôt que du « nous ». Il s'agit d'une dimension philosophique rejoignant les enjeux existentiels de l'homme que la mort n'est pas seule à investir. La santé, c'est une disposition à exister dans la dignité de chacun. C'est la reconnaissance par la société et par les pouvoirs publics de ce potentiel qui peut constituer les conditions favorables à générer un acteur de santé dans la société. Martha Nussbaum observe que nos indicateurs économiques échouent à saisir les réalités des vies individuelles, auxquelles elle préfère les « capabilities », en se référant, je cite, « à ce que cette personne est capable de faire et d'être ». Les effets de la démocratie sur la participation dans le champ de la protection de la santé, c'est le deuxième volet. Ce qui nous intéresse des approches d'Amartya Sen et de Pierre Rosanvallon, c'est le partage d'une définition et d'une vision de la démocratie qui va bien au-delà du scrutin et des étapes électorales, vers tout ce qui peut faciliter le débat public ouvert et tolérant, accordant, je cite Amartya Sen, une place capitale à la garantie de la libre discussion et une interaction née de la délibération, à la fois dans la pensée et dans la pratique politique, et cela pas seulement grâce aux élections ou pour les élections. James Buchanan va même plus loin en définissant la démocratie comme gouvernement par la discussion. Il conçoit que les valeurs individuelles peuvent changer, et change en effet au cours des processus de décision, ce qui est sans doute le moteur le plus puissant de changement sociétal. Alors justement, que nous apprennent les analyses plus précises sur la démocratie, sur le rapport de la société au pouvoir, sur la formation de valeurs nécessaires à générer des savoirs et des politiques utiles au changement. Dans son ouvrage « La démocratie des autres », Amartya Sen tente de répondre à la question « Qu'est-ce que la démocratie ?» La démocratie a des exigences complexes qui requièrent aussi la protection des droits et de la liberté, le respect de la légalité, ainsi que la garantie de libre discussion et de circulation non censurée de l'information et la liberté de la commenter. Sen en vient ensuite à présenter les trois modes à travers lesquels la démocratie enrichit la vie des citoyens. Premièrement, la liberté politique fait partie de la liberté de l'homme en général, doué d'exercice de droits civiques et politiques. La participation à la vie politique et sociale a une valeur intrinsèque pour la vie humaine, dit-il, et le bien-être des personnes. Deuxièmement, la démocratie a une valeur instrumentale ou pratique en amplifiant l'écoute accordée aux gens, lorsqu'ils expriment et défendent leurs revendications à l'attention des politiques. Et nous dit-il, y compris revendications pour des nécessités économiques qui permettent de générer des incitations politiques. Troisièmement, la politique de la démocratie donne aux citoyens une chance d'apprendre des uns des autres et aide la société à donner forme à ses valeurs et à ses priorités. Même l'idée de besoin, dit-il, qui inclut la compréhension de besoins économiques, requiert une discussion publique et un échange d'informations, de points de vue, d'analyses. Dans ce sens, la démocratie a une fonction constructive. Il ressort très bien de ce propos que l'exercice des droits civiques et politiques, libre discussion, débat, critique, contestation, sont au cœur du processus générant des choix de cause. Et ces procédés ont une valeur cruciale dans la formation des valeurs et des priorités et la compréhension de la force des revendications des besoins, des droits et des libertés, ainsi que leur faisabilité. Amartya Sen donne l'exemple de la baisse de la fécondité dans l'état du Kerala en Inde, où de nombreux débats ont contribué à former le point de vue selon lequel une famille heureuse est une famille peu nombreuse. Il démontre par ailleurs que la démocratie, la presse libre, sont les meilleurs remparts pour prévenir les famines. Sen nous assure, je cite, « qu'aucune famine ne s'est jamais produite dans un pays indépendant et démocratique, jouissant d'une relative liberté de la presse. Les journalistes et l'opposition se saisissant immédiatement de la situation pour attendre du gouvernement des réactions face à la situation. C'est bien la liberté publique de libre expression qui donne à certains groupes le pouvoir d'obtenir, dit-il, qu'un gouvernement responsable intervient pour remédier à la situation de pénurie de nourriture. Ainsi, la fonction positive des droits civiques et politiques s'applique à la prévention des catastrophes économiques et sociales en général. La remise en question des liens État, citoyen, santé publique n'est pas seulement de nature économique. L'engagement politique des citoyens nécessite un environnement favorable à la prise d'initiative, à la prise de décision, où les conditions de l'expression démocratique sont réunies. À Abidjan, j'écrivais ceci que je pensais d'autant plus à Tuléar, Madagascar, à l'époque du président Ratsirak. La société dont les droits ne sont pas respectés peut-elle contribuer à élaborer un projet de société, y compris de santé, alors que la pensée est asphyxiée par la nécessité première de faire survivre cette citoyenneté, justement. Pour exister dans une société, exprimer son potentiel créateur et novateur, ainsi participer de son développement, le préalable indispensable est d'exister en tant qu'individu, appartenant pleinement à cette société, avoir évacué en quelque sorte un contentieux avec le pouvoir et ainsi libérer sa pensée. Quelle contribution peut-on attendre des citoyens vis-à-vis de leur santé lorsqu'ils sont sans cesse déresponsabilisés et niés ? Troisièmement, les conditions démocratiques semblent réunies et pourtant ne sont pas suffisantes à la participation dans le champ de la santé. Nous vivons dans une société perçue comme démocratique. Or, lors de chacune des étapes de notre traversée institutionnelle, de l'école à l'université, du monde du travail à la retraite, la société n'œuvre-t-elle pas plutôt à nous uniformiser ? À nous inviter à assimiler les savoirs des autres plutôt que de penser par nous-mêmes, à nous mettre en échec si nous ne sommes pas en conformité avec le modèle dominant, où que ce soit, à l'école, au travail. Une société qui nie ainsi la différence, qui met la créativité en sommeil et s'intéresse à la performance quantitative de l'employé plutôt que qualitative, témoignant d'une capacité d'idées, d'innover, de stratégie, minimise en réalité les potentiels et supprime de fait des acteurs sociaux. La participation est une culture qu'un système démocratique peut faciliter, mais il ne va pas de soi qu'elle en émane spontanément. Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, qui enseigne ce semestre, nous prévient, je cite, « que l'élection ne garantit pas qu'un gouvernement soit au service de l'intérêt général ni qu'il y reste ». Rosanvallon nous invite à une approche partant d'un vaste mouvement de décentrement des démocraties. La démocratie doit permettre à chaque individu d'être partie prenante et entendue. L'émergence d'un art de gouvernement plus attentif aux situations particulières des individus. Lorsqu'il s'est exprimé à la conférence organisée en 2008 par le réseau Coordination Sud sur les regards du monde sur l'Europe, Pierre Rosanvallon nous disait que la démocratie n'est pas un régime, c'est une force de société. Elle aboutit au travers d'une redistribution sociale. Les démocraties ont progressé en tant que régime, nous dit-il, mais les sociétés démocratiques ont régressé car il y a de plus en plus d'inégalités. Il s'agit donc moins de droits ou de régimes que de qualité des sociétés, de paix sociale, de citoyenneté civile et politique. La première caractéristique universelle de l'idée démocratique est un régime qui soumet ses valeurs et ses institutions à la discussion et à la qualité, qui témoigne d'une inquiétude permanente sur les valeurs, un régime toujours en chantier. La vraie démocratie, poursuit le politologue, c'est cet espace où aucune voix ne puisse être opprimée, c'est le souci de l'universalisme, que chacun puisse compter sur quelque chose. Il y a deux universaux, dit-il. Un, la discussion sur les fondements de la démocratie. Deux, chaque voix doit pouvoir compter sur quelque chose. En visant chacun des êtres de la société, la démocratie telle que l'envisage Pierre Rosanvallon constituerait le socle favorable à s'intéresser à la santé de chacun et de tous. C'est à partir de là que la personne peut se saisir de sa santé une fois définie et perçue comme une pleine liberté d'expression elle-même. Le modèle dynamique, constamment évolutif, que le politologue propose, nous intéresse aussi parce que l'expression d'un besoin peut être changeante. Dite, puis tu, puis exprimée à nouveau. Un besoin s'exprime d'autant plus facilement qu'il est accessible à une réponse. Par la résignation et le découragement, les populations ont souvent cessé d'exprimer des besoins qui ne le deviennent plus au gré des générations suivantes, qui ont grandi en occultant des besoins non exprimés comme tels par leurs parents. C'est particulièrement le cas en Afrique, dans les pays pauvres. Or, dans des conceptions évolutives de la démocratie, la perception d'accessibilité du besoin peut revenir et trouver une écoute et une réponse. Dans le champ de la santé, les lieux et temps de partage des savoirs et des attentes, d'analyse, de compréhension des besoins sont rares. La dynamique de participation permet d'aller vers une société plus soucieuse des priorités du peuple et au travers du processus de vouloir préserver sa santé, constituer l'expression même d'une liberté publique, d'une liberté individuelle. Le mot de la fin, ou peut-être d'un début, pour une nouvelle approche de la santé. Après avoir réfléchi à tout cela, j'ai ouvert un ouvrage un peu par hasard, et voilà ce que je lis. Dans la langue chinoise, l'expression « nourrir le vivre » signifie « se garder en bonne santé ». L'expression décrit aussi l'objectif que les arts chinois, corporels, culinaires, calligraphiques et artistiques ont en commun, nourrir le vivre. Cela faisait un moment que le mot « santé » me semblait étriqué. Maintenant, je trouve une expression qui me convient mieux. Ici, les Chinois nous aident à comprendre que la santé ne se réduit pas à un bien public ou même à un droit. C'est le fait de vivre qui est le bien commun à toutes les créatures et que chacun peut s'approprier ou initier l'autre à s'approprier. Il est intéressant de lire aussi ce que pensent les populations interrogées à propos de la santé en Côte d'Ivoire lors d'une étude réalisée par les anthropologues Aris Memelfauté et Gadou Dakoury, commanditée à l'époque par le représentant de l'OMS, Diego Buriot, sur les représentations de la santé et de la maladie chez les Ivoiriens. Dans les réponses des personnes interviewées, l'idée de santé apparaît comme une réalité complexe à plusieurs dimensions. Le bien-être qu'elle connote est d'abord celui du corps. Indemne de souffrance et généralement en état de force. La santé est perçue comme source de vie. La santé y apparaît, je cite, comme qualité supérieure de la vie, une plénitude heureuse d'être, de relations, d'activité. La santé est une notion philosophique, puis une notion économique, puisqu'elle permet de tout faire dans la vie. Travailler, satisfaire ses besoins, s'émanciper, s'épanouir. Terminons avec cette invitation de la présidente de la Conférence nationale de santé en France, publiée en septembre dernier dans le numéro spécial de la revue du Haut Conseil de santé publique, intitulé « 20 ans de santé publique ». Tout le numéro est très intéressant, je vous recommande de le lire, je pense qu'il est en ligne sur le site du Haut Conseil de la santé publique. Reprenant ses recommandations, la présidente nous dit, en amont de l'élection présidentielle à l'époque, « La démocratie sanitaire doit maintenant être promue dans sa dimension collective, constructive, élément central de toute conduite de changement que l'évolution du système de santé, son suivi et son évaluation rendent indispensables. Il s'agit aujourd'hui de refonder la légitimité démocratique des choix qui sont opérés dans l'organisation du système de santé. La démocratie sanitaire repose sur la reconnaissance, le respect des différents acteurs et de leur légitimité et la transparence du processus. Elle nécessite des études d'impact et des moyens adaptés pour permettre la confrontation des points de vue entre population, offreurs et financeurs. Du débat entre ces différents acteurs doivent sortir non seulement des propositions, mais une démarche collective pour porter et accompagner les changements nécessaires. La contribution de la démocratie sanitaire à la conduite du changement est sans aucun doute un enjeu majeur, tant pour elle-même que pour les responsables politiques de santé. Fin de citation. C'est le paradigme de la construction sociale de la santé en France et en Europe qu'il nous faut inverser. Rétablir la santé comme une valeur philosophique et un sujet de participation démocratique avant d'être un paramètre industriel ou économique. Seulement alors, chez nous et au Sud, pourrons-nous aborder de manière efficace l'enjeu de l'équité de l'accès aux soins et plutôt que la question du financement des systèmes de soins, aborder celle du financement d'une politique de santé élaborée ensemble selon des priorités choisies ensemble entre la personne, celle qui n'est pas encore un citoyen au sens où il participe à la chose publique, l'usager, le malade, le citoyen, les professionnels de santé et l'État. Selon le prix Nobel d'économie en 1998 Amartya Sen, le public ne doit pas se considérer comme un simple patient, mais bien comme un acteur de changement. Le prix à payer pour l'inaction et l'apathie, ce peut être la maladie et la mort. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nous rappelle, je cite, que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Quelles peuvent être l'autorité et la crédibilité d'un État qui ne s'intéresserait pas à la volonté du peuple et au sens large à ses attentes et à ses besoins? En me tournant vers la jeunesse, leur avenir, je repense à ce commentaire du député à l'Assemblée nationale du Mali qui faisait le bilan de la démocratie dans son pays 20 ans après la chute de Moussa Traoré, à l'issue de la révolution du 26 mars 1991, et quelques années après les élections libres du Mali indépendant qui portait Alpha Omar Konaré au pouvoir en 1992. Le député Moumtaga Tall nous dit qu'il est précieux d'investir dans le savoir et d'encourager les jeunes à participer aux instances politiques et insiste sur le fait, je cite, que sans repère pour les jeunes, on ne peut pas bâtir de véritable démocratie. Ainsi se termine la micro-géopolitique sur laquelle je vous proposais de réfléchir, caractérisant dans une certaine mesure, pas de manière exhaustive, les relations politiques et les territoires des pouvoirs entre différents acteurs de la société et de l'État. Si j'ai enlevé du titre de mon exposé le soignant en tant que symbole du système de soins, c'est qu'il m'intéressait de mettre en valeur le face-à-face du peuple avec l'État sur ces sujets. Nous ne sommes que secondairement et ponctuellement des usagers de soins. Nous sommes avant tout des citoyens pouvant nous saisir des enjeux de notre santé dans nos sociétés, ici ou là-bas. Je vous remercie de votre attention.